Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah.
Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous allez continuer à jouer toutes les semaines depuis 15 ans.
Soyez prêts pour hyper atomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Bonne fin d'après-midi à tous et à toutes et bienvenue à votre édition du 8 février de Puissance Maximale. C'est votre magazine ludique sur, bien sûr, le monde des jeux, ça le dit automatiquement. Et nous avons une émission extrêmement chargée et une équipe du tonnerre aujourd'hui autour de la table. Premièrement, il y a Guillaume Forand qui est à la console en train de taponner sur l'ordinateur. Mais nous avons également en studio les super chroniqueur de Puissance Maximale. Et j'ai nommé Christian Lacroix.
Hey, salut tout le monde.
Salut Christian. Nous avons également François Gécouillard qui est là.
Salut Vincent.
Hey François. Et nous avons la chance d'avoir Francis Rodrigue cette semaine.
Bonjour.
Et une émission chargée, comme je le disais, on va voir un petit peu plus tard dans l'émission une entrevue avec les gens de, excusez-moi, Cap et Kimono, qui aura lieu au mois d'octobre. Ils vont venir vers, disons, les deux tiers de l'émission. Mais, petit tour de table pour les autres, de quoi on va-t-on parler aujourd'hui, tout simplement?
OK, ben moi, je vais vous parler donc d'un jeu de société qui est sorti relativement récemment, mais que j'ai enfin pu jouer. C'est Chaos in the Old World, donc le chaos dans le vieux monde, de Fantasy Flight Game, un jeu dans l'univers de Warhammer.
Francis, de ton côté?
Moi, de mon côté, je vais faire ma fameuse chronique Oldies contre Newbies. Finalement, c'est un jeu récent et un ancien jeu, pas nécessairement bon, que je critique. Donc, je vais vous dire plus tard quels seront les jeux.
Vous devez rester à l'écoute, c'est certain, parce que moi, je sais ce que sont les jeux et ça va être extrêmement intéressant. Et on va passer tout de suite en musique avec Guillaume qui va nous faire jouer une pièce.
I'ma give you something so you don't try no more. Oh my lord, what you gon' say next? Do anything for a little paycheck. I'ma tell you short, simple, and basic. It really doesn't look like you're gonna make it. You make me sick with all your tricks. You just might slip, your feet lose grip. You're not that slick, I'm much too quick. You've broken something that you just can't fix. You know that oil and water don't mix. Yeah,
tell you. Look.
I'm only trying to make things run smooth, but now I gotta worry about what you gonna do. You should have came to me to tell me what you're going through, but now you're on the wrong team, gotta own you. Don't you ever think about how they all say everything that you do comes back always. You made a big leak and your shit might sink. I would have thought you would have thought, but I guess you don't think. You make me sick with all your tricks. You just might slip, your feet lose grip. You're not that slick, I'm much too quick. You've broken something that you just can't fix. You know that oil and water don't mix. Get ready for the flow.
Alors bonjour tout le monde, ici Bonhomme Carnaval. Vous écoutez Puissance Maximale, installez-vous à vos jeux et soyez comme moi, le meilleur dans ce que vous faites.
Et nous sommes de retour sur les ondes de CKIA, ou peut-être que vous prenez également l'émission sur CJBECIVR ou Abandonware France. Et on vous salue si vous êtes en France, cousin français. Nous allons passer à la chronique de Francis Rodrigue aujourd'hui, qui va nous parler de deux jeux vidéo, donc un nouveau et un jeu plus ancien. Francis, de quel jeu vas-tu nous parler?
Pour débuter, je vais commencer avec le jeu, un jeu plutôt ancien. Je parlerai bien sûr de Kabuki Quantum Fighters sur le Nintendo Entertainment System, communément appelé le NES. C'est un jeu assez traditionnel, dans le fond, côté contrôle, on s'entend, c'est le bon vieux A pour sauter, B pour attaquer, puis Select pour choisir l'arme et Start pour faire pause. Néanmoins, ce jeu-là était très 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 intéressant, une petite histoire quand même assez intéressante aussi. Ça se passe en 2056, le colonel Scott O'Connor, nom très américain soit dit en passant, est choisi pour faire une entrée dans un ordinateur parce que l'ordinateur de l'armée aurait été pris par un énorme virus. Et puis là, c'est ça, lui doit se prendre son alter ego pour aller combattre les virus à l'intérieur de l'ordinateur.
OK, donc c'est un monde virtuel, c'était à l'intérieur d'un espèce de mainframe d'ordinateur.
C'est ça, fait que finalement, le personnage, c'est un soldat, mais on le voit jamais en tant que soldat, on le voit comme en kabuki, finalement, qui sont des espèces de guerriers japonais avec des grosses tignasses, et dont justement
Et des grosses épées?
Non, même pas d'épées. Ah. Donc, justement, le point intéressant de ce jeu-là, c'est que le personnage se combat avec ses cheveux. Il donne des coups de cheveux.
et il y a aussi... de couette.
Et il y a aussi possibilité, après ça, de prendre des power-ups, ce qu'on appelle, des objets qui aident. Côté graphique, bien entendu, c'est du vieux Nin. Donc, nécessairement, les graphiques sont pas extravagants. Néanmoins, pour le livret américain, c'était des dessins justement plus américanisés, tandis que le livret japonais était plus manga. Et puis ensuite, dernier détail là-dessus, bien entendu, un fait intéressant, c'est que le jeu a été fait par Al Laboratory, qui est en fait une compagnie très appréciée de chez Nintendo, qui a fait entre autres la série Super Smash Bros. Et aussi, bien entendu, toute la série de Kirby. Donc, c'est ce qui est pour Kabuki Quantum Fighter. Je vous conseille très fortement, pour les collectionneurs comme moi, d'aller se procurer ça.
On peut se procurer ça sûrement, j'imagine, dans les magasins dont on parlait peut-être il y a une semaine ou la semaine dernière, il y a deux semaines, des magasins un petit peu plus spécialisés. Pas nécessairement comme les EB Games et tout ça. Là.
Non, définitivement, ça va être plus dans des boutiques qui vendent des jeux anciens tels que Super Nintendo, Nintendo 64, etc.
Dis-moi, Francis, est-ce que tu es au courant si c'est disponible sur la console virtuelle de la Wii?
Je ne crois pas, étant donné que c'est un jeu qui est un peu plus, je pourrais dire, qui est moins connu, disons. C'est pas comme un Mario Bros ou un Mega Man. Je ne crois pas qu'il soit encore disponible. Je ne croirais pas qu'il le soit. S'il l'est, à ce moment-là, procurez-vous-le. C'est un jeu très intéressant.
Excellent. Et pour ce qui est de ton jeu, un petit peu plus up-to-date, comme on dirait en mauvais français?
Et pour le jeu récent, bien entendu, c'est mon gros coup de cœur sur ordinateur, un jeu que j'adore absolument. Il s'agit de Left 4 Dead 2, jeu très traditionnel. On est quatre personnes, on doit survivre à des hordes et des hordes et des hordes de zombies.
C'est ce qu'on appelle un jeu de survie de zombies, là, dans le fond.
Ouais, définitivement. Survival horror, comme on l'a appelé en anglais. En gros, l'histoire, c'est quatre survivants qui se dirigent vers le toit d'un hôtel pour se sauver en hélicoptère. Malheureusement, ils arrivent sur le toit de l'hôtel et l'hélicoptère se pousse. Donc, ils se ramassent les quatre sur le toit et doivent se trouver un plan B pour se sauver. Finalement, contrairement à son prédécesseur, Left 4 Dead 1, finalement, dont les histoires ne se suivaient pas, parce qu'il y a comme quatre films, si on pourrait dire, se suivaient pas. Dans celui-là, c'est cinq films qui se suivent un après l'autre. Donc, quand on commence un, on voit que c'est une suite de l'autre directement. Un autre détail intéressant, bien entendu, les contrôles, ben c'est un shooter de Valve, donc le bon vieux WASD, souris pour s'aider, spacebar sauter, contrôle se pencher, donc les contrôles sont très très simples à comprendre. Les graphiques sont très 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 bons, c'est pour l'engin Valve, disons qu'ils ont amélioré beaucoup à comparer du 1, surtout quand ils comparaient des gros zombies, du 1 et en comparer du 2, ça donnait un plan assez intéressant. Et puis ensuite, pour ce qui est de l'ambiance aussi, bien entendu, le 1 était plus sombre, était plus épeurant, si on peut dire. Le deuxième est plus axé justement sur le fait que c'est des survivants, puis peu importe la situation, ils doivent survivre, donc que ce soit le jour, la nuit, il n'y a pas une situation qui les échappe.
Left 4 Dead 2, c'est moins horreur, c'est moins épeurant, c'est plus action, quoi?
Malgré qu'il y a toujours ces petits points de frissons, tels que la witch qui chante en bras en pleurant, qui est quand même très, très intéressant.
Tu veux surtout pas qu'elle arrive, tu veux pas la déranger.
Hein? Non, exactement, c'est ça. Donc, même le jour est là, mais en plus, ça marche. En plus d'être juste assis et de brailler.
Francis, détrompe-moi, là, mais est-ce que c'est possible de jouer les zombies?
Oui, définitivement. Il y a un mode versus qui se joue principalement sur Internet, aussi seul, mais ça, c'est moins intéressant, là. Où ce que une équipe va jouer les survivants, l'autre équipe va jouer les zombies. Le but pour les survivants, bien sûr, c'est de survivre. Et pour les zombies, c'est d'annihiler avant de se rendre.
Est-ce que les quatre personnages sont les mêmes personnages que le premier?
Non, mais les personnages ont changé. Contrairement au premier, qui était Francis, Bill, Zoé et Louis.
Super sympathique aussi, là, c'était vraiment bon.
C'était très, très drôle, malgré que les nouveaux personnages ont aussi leurs petits points intéressants. Maintenant, c'est Ellis, Rochelle, et non Rachel, c'est Rochelle. et puis Nick et Coach. Coach n'a pas de nom, il s'appelle Coach.
C'est son surnom.
C'est son surnom, il s'appelle Coach, simplement. Et puis, c'est ça. Pour ce qui est des personnages, puis bien entendu, les zombies, mais on peut jouer les gros, gros monstres, pas les petits zombies traditionnels. Puis, ça donne un défi assez intéressant.
Est-ce qu'ils ont changé les zombies par rapport au premier?
Graphiquement parlant.
Ben, au niveau des habiletés, des pouvoirs.
Ils en ont rajouté, bien entendu. Au début, c'était il y avait le tank, le boomer, le smoker et le hunter. Là, ils ont rajouté à ça le charger, le spitter et bien entendu, il y a encore la witch qui est toujours aussi là et le tank qui est un tank. J'ai rien à rajouter là-dessus. Et puis, c'est ça. Puis, un autre fait intéressant aussi, c'est que dans Left 4 Dead 2, comparé du premier, Valve, les créateurs du jeu, ont baissé l'intelligence artificielle des joueurs ordinateurs, donc les survivants ordinateurs, et ont augmenté ceux des zombies pour justement inciter les gens à jouer plus en ligne. Parce que utiliser les tactiques en ligne, c'est vraiment très, 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 très intéressant. Et donc, ça fait le tour pour Left 4 Dead 2. Maintenant, un petit dernier détail que je voudrais glisser, c'est mon moment geek de la semaine. En fait, je voudrais simplement parler du site le www.ocremix.org, que je vais mettre sur le site, soit dit en passant. C'est un site qui a été créé le 11 décembre 1999 par DJ Pretzel, qui est de son surnom sur Internet. C'est un jeu, en fait, qui rejoint tous les fans de jeux vidéo et surtout les fans de leur musique sur un même site. Les DJ du site, finalement, font des remixes de tout plein de musique, que ce soit des jeux de vieux nin autant que des jeux très 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 récents.
Donc OC Remix.
Exactement, donc OC pour Overclock.
D'ailleurs, la pièce qu'on a entendue juste avant de Sonic 2, on peut la télécharger sur ce site internet-là.
Définitivement. Il y a, dans chacun des jeux, il y a une liste qui a plus de chansons. Finalement, c'est sûr qu'il y a des jeux qui n'ont une ou deux, mais on s'entend que les Final Fantasy, les Mega Man et
Castlevania.
Et les Castlevania, et surtout les Castlevania ont des très très bons remix metal.
Excellent. Ben, merci beaucoup, Francis, d'être passé à l'émission. On rappelle que tu nous parlais de Left 4 Dead 2. Tu nous as parlé de la version PC, mais on sait également que c'est disponible sur la Xbox 360. Et le premier jeu, celui du NES,
Kabuki Quantum Fighter.
Excellent. Et on va passer tout de suite en musique avec Guillaume, qui va peut-être pouvoir nous parler.
Oui, oui, ce coup-ci, ça devrait fonctionner. Donc, cette chanson-ci, c'est la chanson Pipe Dreams, Mad Hatter, que Francis pourrait nous donner un petit peu plus de détails rapidement.
Oui, rapidement. C'est Mad Hatter est un... est un, si on peut dire, un débutant dans le domaine du rap. Il fait beaucoup de musique rap sur Internet. Et lui et ses amis ont eu un trip et ont voulu faire de la musique qui ont appelé l'album, finalement, pardonnez-moi l'expression, c'est quand même le nom de l'album, 8-Bit Bullshit, qui est en fait des chansons rap de jeux populaires, de jeux de Nintendo, entre autres, tels que Mario Bros, Spy Hunter et plusieurs autres. Donc, avec... là, maintenant, c'est le Pipe Dream. On parle ici de Mario Bros, bien sûr. Go. I've been having crazy pipe dreams. Don't laugh. And please don't tell the mental hospital staff. But I wake up in the land filled with mushrooms. We'll run up plants of doom and fire flowers in full bloom. It don't stop there. Yeah, it sounds insane. There's a princess in peril that calls out my name. Mario, I don't know how she knows me though. But she's fine as hell and has an ass like whoa. So I run through the land and I'm quick on the double. Dream of no dream, man. Toadstool is in trouble. So bring on King Koopa. I ain't that impressed. I'ma flush out that snake like a plumber. Possessed, bitch, I am true to my claim. Fat boy, plumber, Mario is the name. That's right. Collecting coins, I'm all about my cash. And you know them chicks dig the bushy ass mustache. I grab my brown boots and bright red cap and my blue overalls. Old school like that. My hands are shaking with a fireball itch. I'm about to make Bowser my bitch. I've been having crazy pipe dreams. My brother's in them too, Luigi. But Luigi's a pussy, so it's up to me to save the Mushroom Kingdom. I'm here to kick ass and chew bubble gum, and I'm all out of gum. What? I know that was lame, but when your enemies are turtles, you have no more shame. You got Koopa Troopers and even Koopa Paratroopers. Stomp on their shells and leave them in a stupa. Super duper Mario.
Magic fungus.
Made me grow double size, stomping foes to dust. I'm quick to put a boot to a Goomba's forehead. One small jump and I'm leaving him dead. I am true to my claim. Yeah. Fat boy, plumber, Mario is the name. Right. Collecting coins, I'm all about my cash. And you know them chicks dig the bushy ass mustache. I grab my brown boots and bright red cap and my blue overalls. Old school like that. My hands are shaking with a fireball itch. I'm about to make Bowser my bitch.
Yeah, who can jump the highest on the flagpole now, bitch? Yeah. Where's my fireworks, goddammit?
I've been having crazy pipe dreams. I start to wonder if this isn't a dream, what kind of spell am I under? Does it feel so real? And it makes me think when I feel the pain, when a foe makes me shrink. This isn't a dream. I'm throwing fire, better duck. I'm quick to burn a hammer, brother, motherfucker, what? Yeah. This has to be real, man. This ain't no game. My world and their world is one and the same. I dive into the moat on the way to the castle. Underwater enemies are giving me a hassle. Assholes like Blue with the Squid and Cheap Cheap. But I can't stop now. I'm in too deep. Yeah, I am true to my claim. Fat boy, plumber, Mario is the name. That's right. Collecting coins, I'm all about my cash. And you know them chicks dig the bushy ass mustache. I grab my brown boots and bright red cap and my blue overalls. Old school like that. My hands are shaking with a fireball itch. I'm about to make Bowser my bitch.
One more thing.
I've been having crazy pipe dreams. I think they're true. I'ma churn Bowser's skin from green to black and blue. Come a long way. Nah, who am I kidding? I used the war zone to get here. And that's where I've been all this time. Yeah, don't call me a cheater. I don't see you saving the world in your same wife beater. Eating pizza and playing Nintendo for hours. Leave it to me. I'm the one with superpowers. Back to the story. I put Bowser in his grave. Beyond the fiery pit. A princess to save. When I got there, it was this midget asshole. Sorry, Mario, the princess is in another castle. I am true to my claim. Fat boy, plumber, Mario is the name. Collecting coins, I'm all about my cash. And you know them chicks dig the bushy ass mustache. I grab my brown boots and bright red cap and my blue overalls. My hands are shaking with a fireball itch. I'm about to make Bowser my bitch.
Fuck this game.
Supersonic is the number one bet. It's got no wires, it's a one to get. Arcade action is where you'll be. Supersonic will set you free.
No wires!
It
works with Nintendo, it will do. Games for players 1 and 2. Highest scores is what you'll see. Super Sonic will set you free. No wires! Super Sonic!
All your bays are belonging.
Hey, oui, bonjour tout le monde.
Alors, salut, Christian.
Salut. Alors, donc, je me lance tout de suite avec la critique de mon jeu que je viens d'essayer avec grand plaisir. Donc, c'est un jeu de Fantasy Flight Games. Pour ceux qui ne connaissent pas cette compagnie-là, c'est la compagnie pour les jeux vidéo, surtout de style qu'on appelle...
Jeu de plateau,
ça commence bien, oui. Jeu de plateau de type... Il y a deux écoles dans les jeux de plateau, là, on le rappelle. Il y a les jeux à l'allemande, qu'on appelle, ou à l'européenne, qui sont des jeux souvent relativement arides, très axés sur les décisions, t'es très cérébral, tout ça. Et il y a les jeux améritrash, qu'on appelle. Donc, l'école améritrash, c'est beaucoup plus...
celle qu'on aime.
Ouais, oui, ben moi, personnellement, ben j'aime les deux. Moi, j'aime les deux, mais j'ai une préférence pour améritrash. C'est caractérisé par un fort thème, des thèmes très, très forts, avec des... Et souvent, il y a beaucoup de confrontations.
Beaucoup de bastons.
Oui. Donc, des conflits, voilà, beaucoup. C'est beaucoup basé sur les wargames, les jeux de guerre à la base. Donc, c'est ça. Et celui-là, c'est intéressant parce qu'il a toutes les apparences d'un jeu à l'Améritrash. Parce que, premièrement, ça se passe dans l'univers... Le jeu s'appelle Chaos in the Old World. Ça se passe dans l'univers de Warhammer. Et donc, en partant, il n'y a pas plus thématique que ça. On dit, waouh, il y a des crânes, et évidemment, oui, des combats, mais les combats, ça prend pas tant de place. Alors, on se rend compte rapidement que c'est un jeu, dans le fond, d'occupation de territoire, OK? Et donc, c'est pas si... c'est quasiment un jeu, un euro déguisé.
Ah, OK.
Ça, c'est intéressant.
Un peu comme
un
risque.
Pas trop de baston.
Pardon?
Comme un risque, un peu.
Hein? Oui, un peu, oui. À la base, c'est ça, oui. Mais, il y a beaucoup plus de cartes que par le risque. Le défaut... En tout cas, qu'on trouve à ce jeu-là, c'est que c'est uniquement des chaudières de dés, puis là, bon, t'es chanceux, t'avances. Alors, il n'y a pas vraiment de il y en a des stratégies, mais... Alors que là, c'est vraiment l'interaction avec des cartes, et le jeu est très dynamique. Si je raconte en quelques mots les phases, c'est qu'en gros, il y a le vieux monde. On commence toujours par une carte du vieux monde. Donc, le vieux monde lui-même réagit, puis nous envoie des événements. Vous allez avoir des chasseurs, des witch hunters, on appelle, qui arrivent, fait que là,
c'est des random events. Là,
oui, voilà, exactement. Et en même temps, ça donne la durée du jeu, parce que le vieux monde peut gagner. Parce que si on passe à travers toutes les cartes, il y en a 7 ou 8, là, dépendamment du nombre de joueurs, c'est fini. Si personne réussit à gagner...
C'est une course avec le temps, là.
Ouais. Okay. Sinon, pour gagner, vous avez des points de victoire. Le premier qui sera à 50. Il y a aussi le plateau, en passant, est merveilleux. Il est vraiment beau. Je pense que vous l'avez vu un peu tantôt. C'est vraiment de toute beauté. C'est très, très sombre.
C'est dans la mode de Warhammer.
Oui, Warhammer. Hein, c'est une iconographie très, très...
La peau est tirée.
Oui, c'est de la peau étirée avec des crochets. Bon, en tout cas. Donc, puis les démons sont assez... Il y a de quoi faire des cauchemars pour des jeunes enfants. Donc, ce n'est pas un jeu familial. Là, je pense que c'est...
Dis-moi, Christian, oui? dans le jeu de Chaos in the Old World, c'est quoi le setting? C'est quoi le contexte, là?
Ah, voilà, oui, c'est ça. Ça, c'est important de le dire parce que c'est très intéressant. C'est qu'enfin, c'est la première fois où on joue les quatre dieux.
Les méchants.
Ouais. Alors, pour ceux qui les connaissent pas, là, c'est que dans le chaos, dans le monde de Warhammer, il y a comme quatre divinités qui s'affrontent tout le temps. Et donc, vous avez, par exemple, ils sont thématiques. Il y a Khorne qui est le tueur. Lui, c'est vraiment le guerrier. Là. Lui, il veut décapiter tout le monde. Voilà, dieu du sang, des crânes. Bon. Il y en a un qui est beaucoup plus sur la magie et la manipulation, les conspirations. Zench, qui s'appelle. Bon, vous avez Slaanesh, qui lui, c'est la séduction. Un sadomaso, là.
C'est ça,
des démonettes, là. Et tu vois, androgyne, c'est pas clair, bon.
Juste son nom fait ça.
Ouais. Et, finalement, vous avez Nurgle aussi, qui est le dieu de la putréfaction, de la maladie, Donc, et on joue un de ces... Et le designer, qui est monsieur Eric M. Lang, qui est un très bon designer de jeux, là, chez Fantasy Flight Games, il nous a sorti un paquet de bons jeux récemment, entre autres les Living Card Games, là, justement, de Warhammer et plein d'autres. Donc, lui, il s'est dit, je vais essayer que le jeu soit différent selon le dieu qu'on joue. Ça, c'est mm-hmm. intéressant. Mais le défaut de ça, pour avoir joué puis pour avoir regardé, confirmé nos impressions sur Internet, c'est qu'on est pas mal tous d'accord,
Il y a des dieux qui poussent
entre
les autres.
C'est ça. Ah. Il y a un débalancement, malheureusement. C'est le seul petit défaut du jeu. Parce qu'en
c'est
gros,
le Korn, j'imagine?
Korn est très puissant, le dieu de la baston, parce qu'il est très simple à jouer. Tu t'éparpilles tes trucs, puis à mesure que tu tues des gens, ben là,
ton
cadran avance. Et puis lui, il gagne souvent avec le cadran. Mais les plus difficiles, finalement, mais c'est Slaanesh qui avait gagné. Vous voyez? Slaanesh aussi, c'est un des plus forts. Bon. Alors bref, il y a Nurgle et Dzen, je sais qu'il en arrachait bien raide. Alors, mais il en arrachait un peu. C'est pas si pire que ça. Mais donc, peut-être avec une petite règle ou deux ici et là pour réajuster le tir, mais on va rejouer. Mais quand même, malgré ce petit déséquilibre-là qu'on peut arranger, il va sûrement avoir aussi pas des petits ajustements. Là. Mais maintenant, c'est ça qui est bien. Hein, sur les sites web, on a des compagnies mettent des
fois aux
questions, des erratums, des suggestions de règles alternatives. Je pense pas qu'il va y avoir des expansions à ce jeu-là, parce que honnêtement, on ne peut pas rajouter des joueurs. Il y a quatre dieux.
Est-ce qu'on doit être absolument quatre joueurs pour jouer?
Non, ça c'est une autre peut-être limite de jeu-là, c'est que ça joue à 3 à 4 joueurs. Puis c'est vraiment fait pour un 4 joueurs. Okay. C'est plus le fun à 4 joueurs. Ça, si vous avez des gros groupes de joueurs, celui est assez précis. Ou si vous jouez souvent avec seulement un autre joueur, vous êtes deux, là, ben là, ce jeu-là, il fonctionnera pas. Là. Mais pour notre groupe, mon groupe à moi, là, habituel, là, c'est parfait, on est 4. Fait que c'est. Et ça a été unanime, là. Les gens ont hâte de rejouer.
Ah oui?
Donc, oui. Alors, ma critique, ça serait, si vous aimez l'univers de Warhammer et surtout le chaos, allez-y sans hésiter. Le manuel de règles est facile à lire malgré ses 30 pages, en fait, 30 quelques pages. Les manuels de Fantasy Flight Games, pour leur donner ça, ils sont épais, comme on dit, mais ils sont aérés. Puis c'est toujours très bien. Il y a des exemples, beaucoup d'images. Donc, c'est léger, c'est facile à lire. Donc, voilà. Forte recommandation. Une autre réussite de Fantasy Flight Games. Et mon prochain, la semaine prochaine, là, c'est que je vais me lancer, c'est Rune Wars, qui est la dernière grosse boîte. En anglais, il y avait les coffin box. Ça, c'est les boîtes cercueil. Là, c'est épouvantable. Là, c'est gros comme ça. Puis ça pèse une tonne. Il y a les miniatures là-dedans. Il y a 250. Mais bon, les commentaires sont très bons. Ça a l'air très bien. C'est comme ceux qui connaissent le jeu vidéo Heroes of Might and Magic. Là.
C'est
un peu ça, mais en jeu de plateau.
Ah. Ah, ouais.
Alors, moi, je suis un fan de. Quand j'ai vu ça, comme j'ai dit ça mal pris.
Ça reste encore du médiéval fantastique, donc on sent pas vraiment.
Oui, mais
on ne réinvente pas grand-chose.
Non, et d'ailleurs, ils ont fait ça dans l'univers de Runebound et Descent. Parce qu'ils sont en train de former leur univers fantasy.
J'ai des mauvaises expériences avec Descent, mais bon, ça l'a été.
Ouais, ça, c'est un autre dossier, mais c'est pas si pire, Descent. Mais en tout cas, c'est un autre débat, on s'en lancera pas là-dedans, là, c'est un vieux jeu. Mais
tout à l'heure, tu parlais de chaudières de dés, Descent, là, tu vas être servi. Si tu aimes ça, tirer des dés.
Ouais, c'est des chaudières de dés, effectivement. Mais même le jeu Warhammer, là, le jeu de table, c'est ça.
Des chaudières de dés.
Mais bon, on s'éloigne. Donc, forte recommandation, Warhammer Chaos in the Old World.
Merci Christian. On va y aller tout de suite en musique. Avec Guillaume.
Oui, donc salut, on va y aller avec la pièce de Musax, qui un extrait du jeu Zone of the Enders, qui est la chanson Phobos at Mars. Et le descriptif de Musax lui-même est Second Runner est un jeu d'action futuriste se déroulant au 22e siècle. Donc une pièce de Musax.
We'll be right back. Bonjour, je suis Frodon et j'écoute Puissance Maximale.
Et on salue Frodon qui nous écoute à chaque semaine et on va tout de suite aller en actualité avec Francis et Guillaume. Francis, qu'est-ce que tu as retenu, qu'est-ce que tu as retenu de l'actualité ludique cette semaine?
En fait, moi, il y a quatre nouvelles qui sont assez importantes dans le domaine du jeu vidéo. Premièrement, les fanatiques de Sega vont être très contents d'apprendre que le nouveau jeu Sonic the Hedgehog 4 va sortir. Et puis, en plus, ils vont remettre ça à la sauce ancienne, si on peut dire. Donc, un bon vieux platformer de gauche à droite.
En deux dimensions.
Exactement. Donc, le jeu est annoncé pour PlayStation Network, Xbox Live Arcade, WiiWare et une console secrète qui, tout porte à croire, pourrait pousser sur le iPod Touch et iPhone. Ensuite, il y a aussi la compagnie de jeux japonais très populaire Nippon Ishii Software, communément appelée NIS ou NIS America ici, ont pris une très très grosse descente, donc de 97,5% de leurs profits. La compagnie va pas très très bien. Dans le fond, avec les dernières vérifications qu'ils ont faites, la compagnie vaudrait 78$, c'est-à-dire 7 800 yens. La compagnie aurait un petit peu de misère. Sinon, par la suite, un autre détail dans le vidéoludique, bien sûr, la sortie du jeu Blaster Master Overdrive, qui est un nouveau jeu basé sur un ancien, justement, qui était fait sur le Nintendo Entertainment System, qui devait sortir, justement, aujourd'hui, à moins d'empêchement. Donc, si vous voulez vous procurer ça, ça va être sur la WiiWare, sur Nintendo Wii. Et finalement, le jeu Star Trek Online est sorti le 2 février dernier, c'est-à-dire mardi. Étant moi-même participant de ce jeu, je peux vous dire malheureusement que les producteurs ne pensaient pas avoir autant de
personnes
de succès, exactement. Ils pensaient pas qu'elle allait avoir autant de monde qui allait embarquer sur le jeu, créant ainsi d'énormes bouchons de lenteur, etc. Donc, ils vont travailler là-dessus pour donner de plus de serveurs pour les joueurs du jeu.
Guillaume, de ton côté?
Et première des choses, une petite nouvelle sur le site de Puissance Maximale. Il y a maintenant l'entrevue avec Alexis Pajinov, le créateur de Tetris qui est maintenant disponible. Et pour ceux qui sont un petit peu nostalgiques du vieux Tetris, il y a une nouvelle version de Tetris disponible sur le net qui est Tetris First Person. Le site web est en www.firstpersontetris.com. Je suggère à tout le monde d'aller faire un petit tour. C'est quelque chose de particulier. Faut l'essayer. Par contre, faut avoir pas le mal de cœur, ça peut donner mal au cœur tellement que ça bouge de façon particulière. De plus aussi, dans les nouvelles qui ont sorti, il y a Warhammer 40 000, le MMO, qui a maintenant été officiellement annoncé pour 2012, la sortie, et qu'on devra voir des vidéos, des screens à l'expo de E3 en 2010 cette année, le 15 et 17 juillet. Et dans les nouveautés aussi, il y a un jeu de Ravenloft qui va sortir par Wizard, normalement qui va sortir au mois d'août à Gen Con, qui t'a annoncé et qui va paraître et disponible à cette date. Et dans les nouveautés de Fantasy Flight Games, il y a Horus Heresy aussi qui est en production, qui devrait sortir bientôt. J'ai pas la date exacte malheureusement. Un autre jeu dans l'univers de Warhammer qui s'en vient très bientôt.
Excellent. Donc on va continuer en musique immédiatement juste avant notre entrevue avec les gens de Cap et Kimono.
Oui, donc la chanson, ça va être Accro au réseau du groupe Les Routiers de l'album La République.
voilà peut-être ma promise. On échange quelques billets doux et on fixe l'heure du rendez-vous. Après trois longues heures de malaise, j'arrive à filer à l'anglaise. Alors je retourne chez nous. Et qu'est-ce que je fais d'après vous? Je suis accro.
Ich bin Friedemann Friese und Sie hören Puissance Maximale.
De retour sur les ondes de CKIA et nous avons en fin de compte en notre compagnie Marie-Camille Carrier et Michael Michaud du Festival francophone d'animation japonaise Cap et Kimono qui aura lieu les 9 et 10 octobre prochains à l'Hôtel Pur de Québec. Également, c'est un festival sur les comic books américains. Et on vous souhaite la bienvenue à Puissance Maximale.
Merci beaucoup.
Merci.
D'abord et avant tout, Cap et Kimono, j'imagine que pour se lancer dans une aventure comme ça, et en passant, il y a également Julien Matern qui est ici en studio avec nous et qui n'est pas près du micro. Puis également Andrew Castigan qui fait partie de l'équipe de Cap et Kimono. Pour avoir, en fait, d'où est venue votre idée de partir un festival comme ça à Québec?
Mais en fait, il faut dire que la communauté à Québec est très développée. C'est juste que c'est souvent un petit îlot isolé. Nous, c'est parce qu'on a parti d'un site qui s'appelle OpérationManga.com, un forum et aussi un site de nouvelles. On a commencé à connaître pas mal de gens. On était dans les conventions Gatineau, Attaque-Tombe à Montréal, les deux plus populaires. Anime North aussi. Ce qui fait qu'en arrivant à Québec, on s'est dit qu'on le sait pertinemment qu'il y a un public pour ça à Québec. On a juste à penser à la journée cosplay de l'imaginaire qu'ils font à chaque année depuis 5 ans, qui est très, très, très populaire. C'est une seule journée. Il y a un concours, mais je veux dire, il n'y a pas d'activité. Il n'y a pas beaucoup d'activités comme dans une convention, un festival de ce genre-là. Ce qui fait qu'on a ce public-là à Québec. Et nous, on savait qu'il y avait des gens qui étaient intéressés à participer à ce genre d'organisation-là. On les connaissait aussi. Donc, on a décidé, c'est mois d'octobre cette année,
c'est Julien 2009. Julien et Andrew,
un soir, qui ont décidé de partir cette organisation-là. Ça a comme été un coup de tête en disant, on en a assez d'attente, puis finalement, on va faire le pas en avant.
Mais j'imagine que pour être à la tête d'une telle organisation, c'est parce que vous êtes d'abord avant tout des fans d'animés japonais ou bien justement de comic book américains.
C'est moi la fan de comic book dans
la vie. On est tous des grands fans en fait, mais ce qui est pour ce genre d'organisation là, ce qui est sûr, c'est ce qui est plate pour nous, c'est qu'il faut mettre un peu notre côté de fan de côté pour la simple bonne raison qu'il faut penser justement aux autres également, parce qu'il faut pas juste mettre de l'avant nos préférences dans le comic book ou dans l'animé, mais il faut penser aux autres. Ça, c'est un peu plate qu'on organise ce genre d'organisation là, mais c'est tellement stimulant comme travail à faire que on n'y pense plus finalement.
Et là, on parle des dates là, qui sont au mois d'octobre. Là, on parle du 9 et 10 octobre. À l'Hôtel Pur, c'est un hôtel qui accueille quand même beaucoup de conférences ou de colloques du type. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire là? Parce que moi, je suis allé visiter un peu le site Internet, encore en construction. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont à annoncer. Mm-hmm. Vous en êtes rendu à quelle étape là, dans le processus de cet événement-là?
Mais enfin, on est beaucoup dans le financement présentement, parce qu'on se le cachera pas, on est une première année. On est des gens qui sont tous dans la jeune vingtaine. On est parti avec ça, avec pas vraiment d'assurance de financement, mais on est présentement là-dedans, on est en négociation avec des commanditaires, on recherche des commanditaires, on fait des activités de financement, comme cette fin de semaine, on va avoir un café cosplay au 4e Café, qui se situe sur la rue Saint-Roch, juste à côté de la Barberie, de la brasserie Barberie. C'est de 15h à 20h, 5$ l'entrée pour les participants. Évidemment, c'est cosplay, donc... Pour expliquer un peu le concept de cosplay, c'est costumer dans votre personnage préféré d'animé, et ici on ajoute le comic book américain. Donc il va y avoir activités, jeux vidéo, karaoké, évidemment prendre un petit café entre amis, entre fans, puis discuter de la convention et aussi de nos goûts personnels. Ça, c'est une des activités. On a déjà fait un tournoi de jeux vidéo il y a environ 2 ou 3 semaines à l'Université Laval. Et là, on en a un autre événement qui s'en vient à Lévis, cette fois-ci, le L Gamer, qui va être une activité qu'on veut faire annuellement à Lévis, pour aussi inclure les gens de la Rive-Sud, parce que des fois, ils se sentent un peu délaissés quand ces activités qui sont faites par la Rive-Nord, qu'on les rejoint pas. Mais nous, on va aller les chercher, on va aller les voir, on va aller parler avec eux autres à travers cette activité-là.
Et cet événement-là aura lieu à quel endroit, Lévis?
On est présentement en négociation directement avec la ville de Lévis, parce qu'ils étaient intéressés à nous aider pour ce genre d'activité-là, parce que eux, ça leur amène une autre activité à Lévis, mais aussi ils voient justement notre volonté de vouloir inclure la population de la Rive-Sud dans nos activités ici sur la Rive-Nord. Donc, on prévoit ça pour le mois de mars. On aimerait ça, idéalement, faire ça pendant la semaine de relâche. Donc, on attend des nouvelles de la ville de Lévis incessamment.
Et juste pour terminer, au niveau de la commandite, là, vous êtes en recherche active de commandite, ouais. Donc c'est un appel à tous que vous lancez un peu ici également. J'imagine que quand on est en recherche de commandite, on veut créer une première d'un événement, on prend à peu près tout ce qui peut passer. Est-ce que vous cherchez vraiment seulement des commanditaires qui sont liés au monde du jeu, au monde du comique, ou vous cherchez en fin de compte ceux qui sont prêts à ouvrir la bourse et vous aider également?
Au départ, on était supposé tenir la convention à Lévis. On était supposé avoir la ville de Lévis comme partenaire majeur. On a fondé la société d'animation japonaise des Deux Rives pour qui est un organisme à but non lucratif qui tend à rejoindre, comme le disait Michael, la ville de Lévis, la ville de Québec pour les fans d'animation japonaise. Donc, malheureusement, ça n'avait pas fonctionné de ce côté-là. C'est sûr que pour les autres commanditaires, on est toujours en recherche active, oui.
Mais pour la nature, on ne cherche pas nécessairement les gens. On cherche finalement les commanditaires qui sont prêts à aider un gros événement. C'est un gros événement culturel. On attend de 5 à 600 personnes à l'Hôtel Pur, directement dans le Nouveau-Saint-Roch, dans un quartier qui est en
effervescence.
C'est en plein ça. Puis justement, dans ce boom un peu culturel que la ville de Québec est en train de vivre, mais n'importe qui veut participer à cet effort là pour faire revivre puis participer à l'effervescence du Nouveau-Saint-Roch, ben nous, c'est sûr qu'on est ouvert.
Revenons un peu à l'événement. Là, on parle d'un événement colloque. J'imagine donc qu'il y aura des conférences, il y aura également des expositions. Vous voyez ça un peu comment, là, présentement, même si c'est peut-être... Ben, j'imagine que ça doit être à l'état embryonnaire, mais il y a quand même beaucoup de choses avancées. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez déjà nous... dont vous pouvez déjà nous parler?
Bon, on peut déjà parler de la nature des activités. C'est sûr qu'il va y avoir la fameuse mascarade, qui est le concours de costumes du festival. C'est très sérieux, d'ailleurs, pour les gens qui y participent. Il y a des gens qui y font de façon ludique, juste pour le plaisir. On aime beaucoup ça. Mais aussi des gens qui le font pour obtenir des grades dans le monde, dans tout ce milieu-là. C'est des concours qui sont très sérieux. Il va y avoir cette activité-là. Il va y avoir une danse. On est présentement en train de... On est en partenariat avec l'événement Kabuki électronique qui va avoir lieu à l'Université Laval au mois de mai. On va participer à une mini-convention dans la semaine du 6 au 9 mai à l'Université Laval, les samedis, dimanches de cette tranche de date-là, dans la journée à l'Université Laval, pour donner un peu l'aperçu. Mais il va y avoir justement une danse après la mascarade, il va y avoir évidemment des panels, ce qu'on peut dire un peu des ateliers, des mini-conférences avec des fans et aussi des professionnels qui vont parler du milieu, de leur goût par rapport à l'univers de l'animé et du comic book. Visionnement, on essaie d'avoir du visionnement 24 heures dans des séries de séries américaines de comic book, des super-héros, de l'animé doublé et sous-titré en français. C'est sûr que si on a de la demande pour l'anglais, vu qu'il y a un gros bassin de fans anglophones, c'est sûr qu'on va l'incorporer aussi. Aussi une salle de jeux de rôle et jeux vidéo 24 heures également. On va organiser un tournoi de jeux de rôle à saveur animée, des adaptations de jeux de systèmes connus comme Donjons Dragon sur différentes éditions 3.5, 4 et aussi des jeux sur table.
Mais à la sauce Japon.
Ouais, c'est ça, la sauce animée.
Japon
donc,
et américaine. Dans le fond, ouais. On est allé à plusieurs conventions, puis on veut faire profiter les gens de la grande région de Québec, puis toute la province, et tous ceux qui veulent venir se déplacer de loin, de leur montrer qu'il y a plus qu'une petite journée cosplay. On peut vraiment organiser une fin de semaine avec plein d'activités, comme des concours d'AMV que nous, on a réussi à aller chercher AMV Canada pour être l'organisateur officiel de la compétition, que c'est vraiment à très grande renommée.
Oui, c'est une grosse activité, ça également. Encore là, c'est du monde qui le font ludique, même aussi des gens qui vont chercher des grades internationales pour ce genre de compétition-là. Toujours une salle de vendeurs, évidemment, des gens qui vont venir vendre leurs produits, et aussi une salle d'artistes, des gens, des amateurs qui vont vendre leur art, leurs dessins, leurs produits dérivés, qui vont venir aussi à la convention.
En novembre, depuis une couple d'années, il y a Philosophia, par exemple, à Montréal, qui fait un genre d'événement de la sorte au niveau du jeu de table. Et cette année, il y avait un comédien, Normand Damour, qui était là. Il avait même passé à la télévision. Il était là un peu pour parler de l'événement, puis être là, puis c'était un petit peu une tête d'affiche. Est-ce que vous avez pensé, par exemple, à Capikimono de trouver une tête d'affiche, je sais pas, quelqu'un de connu, soit à Québec ou au Québec, qui pourrait justement s'afficher puis dire « Oui, moi, j'en lis du manga ou je regarde l'animé japonais. » Est-ce que vous avez pensé à ça ou est-ce qu'il y a une surprise que vous nous réservez à ce niveau-là?
C'est sûr qu'on aimerait ça beaucoup. On y a pensé, en fait, mais présentement, vu qu'on est en mode financement pour l'organisation, c'est sûr que ça donne aussi beaucoup de visibilité à l'événement. Donc, c'est sûr qu'on y pense en même temps. On a rien à vous annoncer pour le moment, mais on est à la recherche, c'est officiel. C'est toujours le fun d'avoir quelqu'un de reconnu, surtout que l'animé, moins que le comic book, est très...
C'est très underground, ouais, encore. C'est pas beaucoup de monde qui s'affiche en tant que fan d'anime.
Ça fait que si on pourrait avoir quelqu'un de connu qui ferait ça, pourrait enlever un peu le côté péjoratif qu'on peut rattacher à l'anime ou au manga.
Mais c'est comme les jeux vidéo, c'est drôle que vous dites ça, le côté péjoratif, tout ça, parce que c'est drôle, parce que finalement, justement, la journée de cosplay organisée par l'imaginaire, tu sais, c'est vraiment plein, il y a plein de gens qui sont là, puis ils sont fiers de se montrer comme amateurs de culture japonaise. Donc c'est comme les jeux vidéo, dans le fond, tu sais, on est comme sous-représenté, c'est-à-dire qu'on n'a pas de place dans les médias non plus.
T'sais. En général, les jeunes n'ont pas peur de s'afficher.
dans ce milieu-là, c'est surtout les fans vont le faire quand ils sont en communauté, entre fans. Si vous êtes déjà allé dans un festival d'animé, une convention, les émissions tombent, il y a personne qui est gêné de se monter dans ce costume-là ou de parler d'un tel sujet, ça c'est officiel. Mais quand on veut, puis nous, on va aller vers un festival familial, surtout dans la journée, puis le soir, nous, on va pouvoir présenter du contenu plus adulte, surtout dans le seinen, dans le genre de manga pour adultes. On n'ira pas vers le... on tient à le dire, par exemple, qu'on n'ira pas vers les trucs qui sont plus sexuellement explicites. Ça nous intéresse pas. On trouve que ça coupe un peu pour les gens le soir, surtout dans les conventions. Donc, on va vers les trucs adultes plus le soir, mais le jour, nous, on compte ça pour quelque chose de plus familial. Donc, on veut pas que les gens soient gênés de se présenter à ce festival-là parce qu'ils aiment l'animé. Vu qu'on veut que tout le monde vienne, les parents qui amènent leurs enfants parce qu'ils aiment ça. Je veux dire, pour pas que personne soit gêné de se présenter.
Malgré que je pense, là, on regarde ça, plus que la communauté, justement, manga se développe parce que veut pas. Il peut arriver des fois qu'on se promène dans des centres d'achat, on voit justement du monde qui cosplay parce qu'ils sont 3-4 à les magasiner ensemble, puis pour le plaisir, s'habiller en personnage de dessin animé ou mettre des perruques. Ça peut arriver. C'est quelque chose, dans le fond, qu'on voit que ça se développe de plus en plus, là, ce domaine-là.
Il y a quelques années.
Je pense qu'ils ont perdu des gageurs, mais non, ils le font pour de vrai.
En fait, j'étais allé à un moment donné, il y avait une soirée. De Japon, justement, organisé par Nicolas Jolta, qui organise aussi les Kabuki électroniques. Oui. Il y avait une soirée organisée au bar sur Saint-Jean.
Mais une quasi. Et
puis, ouais, c'est ça. Ouais. Puis les gens disaient, nous autres, on n'est pas déguisés, c'est le reste de la journée, le reste de l'année qu'on est déguisés. C'est-à-dire que si, c'est leur costume normal, ils aimeraient ça toujours s'habiller comme ça, tu sais, vraiment la japonaise, complètement flyée.
Mais il faut dire qu'au Japon, on parle de la mode Harajuku, il y a des quartiers qui sont que dédiés à ça dans les grandes villes. Puis c'est sûr que en Amérique du Nord, c'est beaucoup moins développé. Juste en passant à l'Europe, il y avait des animés dans les années 80 que nous, finalement, on a appris plus tard que c'était des animés, mais eux, ça fait des années qu'ils en ont, qu'ils en écoutent, ils sont un peu en avance sur ça, déjà en Europe, mais ça commence à se développer comme Frank disait, c'est sûr que de plus en plus, moi, comme tu disais, au centre d'achat, j'avais jamais vu ça. Puis depuis 2-3 ans, là, quand on y va, on peut tomber sur ce genre de fans-là qui ont plus peur. C'est ça que je trouve plaisant, c'est de montrer que l'animé puis le manga, ça va au-delà de l'image qui est projetée dans certains médias un peu mainstream, que c'est des trucs pour adultes ou trop enfantins. C'est ça. Alors que le manga et l'animé, c'est un faisceau si large. qui renferme plein de genres différents que finalement tout le monde peut trouver son compte.
Souvent, tu approches les gens qui connaissent pas c'est quoi de l'anime, tu leur dis « T'as-tu écouté ça quand t'étais petit, les Cités d'or, Goldorak? » C'est comme « Ah oui, c'est ça, ben c'est ça de l'anime. »
Ça t'appelait ça.
Dragon Ball, même certains aussi, le monde est, malgré que pour les fervents fans d'anime, finalement, savent que Dragon Ball en est, ils pensent pas toujours.
Mais c'est ça, on veut rejoindre, notre festival veut rejoindre ces personnes-là qui savent pas, en même temps, on veut leur présenter le côté plus lumineux de l'anime et du manga que les gens connaissent moins, justement à cause qu'ils sont influencés par le mainstream, des fois de certains médias qui présentent ça comme étant qui allant contre les mœurs, contre la morale, mais en fait c'est tout le contraire. On a compensé à certaines séries comme Death Note, qui est un trailer psychologique incroyable qui amène finalement un questionnement moral sur un tabou comme la peine de mort, des trucs du genre. On y pense, c'est une œuvre majeure dans le manga, puis aussi qui nous fait réfléchir sur nos sociétés puis nos les fondements de ces sociétés là. Mais c'est ce genre de festival là, c'est pour ouvrir les yeux à ces gens-là, leur faire découvrir des séries qui sont un peu justement hors du mainstream, leur faire découvrir cette manifestation artistique-là qui, des fois, est mal comprise.
D'accord. Et juste en terminant, si on est intéressé à s'inscrire pour... je vois qu'en fin de compte, vous avez laissé un petit dépliant ici avec la préinscription. Il y a une date. Pouvez-vous nous expliquer rapidement qu'est-ce qu'on doit faire? Site Internet?
Oui, le lien pour le compte pour payer par PayPal sur Internet va bientôt être mis en ligne. En attendant, il va y avoir des petits dépliants publicitaires qui vont être laissés un peu partout dans les principaux centres de la ville de Québec. Donc, en les voyant, vous allez pouvoir voir l'adresse postale pour vous préinscrire, acheter un beau petit t-shirt avec ça aussi, si ça vous tente.
Sur le site Internet, ça sonne en construction, mais si c'est possible, vous pouvez aller sur le site Internet. Il y a les courriels des présidents. Vous nous envoyez un courriel au www.capkimono.ca. Rejoindre un des trois présidents. Et nous, ça va nous faire plaisir de vous envoyer une version PDF ou même Word du formulaire pour que vous puissiez nous le faire parvenir en attendant que le PayPal soit en ligne.
Sinon, samedi prochain, il y a un événement bénéfice pour financer l'événement Capé Kimono. Donc, ça va être au Café 4M. Ça, c'est sur la rue Saint-Roch. Et puis, on invite tout le monde à participer. Ça va être dans l'après-midi, tout l'après-midi de 15h à 20h. C'est 5$ et puis on va avoir même de la bouffe de style culture japonaise.
Oui. Exactement, oui.
Excellent. Bien, merci beaucoup, Marie-Camille, Michael et Julien, d'être passés à l'émission.
Merci.
Et on vous souhaite bonne chance avec Cap et Kimono. Vraiment un événement intéressant. On espère que ça sera là pour plusieurs années à Québec. Tant mieux si Québec peut vivre d'une manière culturelle, comme on le voit depuis plusieurs années déjà. Et on prend le temps également de remercier tout le monde qui sont passés à l'émission aujourd'hui. Christian Lacroix, qui on ne peut plus parler parce qu'il est d'autre côté de la vitre, mais il nous salue. Également François G. Couillard. Merci, François, d'avoir été là. Et Guillaume à la console. Nous saluons également Francis Rodrigue avec sa chronique et on le reverra bientôt.
Merci beaucoup.
Tout ça, le temps de vous dire, ben, jouez et bonne semaine. It's D&D. Never kissed a lady before.
Nope. Mm-hmm. Woo! All right. Take it home. A little solo for it. One more time. Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school.
No, we're not.
I know. Now Tak's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end.
Whoa. You got a girlfriend?
Yeah. Yeah. It's D&D, warriors who terrify. It's D&D.